CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Pour vous accompagner, moi-même, je suis Mickaël Icard, journaliste chez CDI Média, et Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Alors, l'entrepreneur de légende du jour a réussi à faire rimer son nom avec le chant des cigales, avec l'accent du sud et les vagues de la Méditerranée. Et le pire, c'est que c'est grâce à une stratégie promotionnelle savamment pensée par le fondateur de la marque à son nom, à savoir Paul Ricard. Alors dans cet épisode, on va découvrir qui est apparu le premier, le pastis ou le Ricard.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Paul Ricard est né en 1909 à Marseille.
Oui, il naît à Marseille dans une famille de marchands de vins et spiritueux. Hein, donc il a déjà, on va dire, un pied dans son...
il a un pied là-dedans.
Voilà, un pied dans son futur métier. Donc son père avait un goût artistique. Et on va voir que d'ailleurs, Paul Ricard aussi avait une fibre artistique très importante. Et on verra que c'est important pour la promotion dont tu as parlé. Mais le père de Paul, donc Joseph Ricard, son père... donc grand-père des personnages qui vont nous intéresser, lui avait dit, écoute, l'art, c'est bien gentil, mais arrête ça, faire de la boulangerie.
Arrête de rigoler, maintenant voilà. Tu deviens boulanger.
Va faire de la boulangerie, il avait fait de la boulangerie un petit peu étant jeune, et puis il en avait marre de se lever tôt le matin, donc il s'était reconverti dans le commerce, disons, de vin et spiritueux. Donc il avait une petite affaire, une petite PME du côté de Marseille, à Sainte-Marthe. Alors, à l'époque, c'était à l'extérieur de la ville, aujourd'hui, c'est dans le 14e arrondissement de Marseille, mais voilà, il avait une petite PME de vin et spiritueux, et donc Paul Ricard et son frère, d'ailleurs, qui va travailler avec lui, sont vraiment nés au milieu de ce qui deviendra leur future entreprise.
Ils ont grandi dans l'alcool, quoi, presque.
Ouais, presque dans leur biberon.
Voilà. Donc, l'enfance de Paul Ricard, plutôt tranquille. C'est pas très modeste, puisqu'il y a quand même une société, mais c'est pas très riche. En tout cas, la scolarité, elle est chaotique.
Oui, Paul Ricard, alors, c'est un garçon très brillant, très vif, mais qui n'aime pas trop la discipline, qui n'aime pas trop l'autorité, qui n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc, à l'école, c'est pas très fluide.
Oui, ils aiment pas trop ça, les
voilà, profs. Voilà, il aime pas trop il aime pas trop faire ce qu'on lui demande de faire. Alors, il peut être très travailleur, hein. Alors, il aime le sport, il aime le foot, la mer, bon, comme, voilà, beaucoup de garçons de son âge. Mais il aime aussi la peinture, hein. C'est un passionné de peinture, et que quand il fait l'école buissonnière, assez souvent, c'est pas pour aller jouer au foot ou fumer des clubs derrière la cour, c'est pour aller au musée, dans les musées de Marseille, voir des peintures, les reproduire, peindre. Donc
il a les gènes artistiques de son père.
Voilà, en fait. Il a les gènes artistiques, et c'est une vraie passion, à tel point qu'il envisagera même un parcours dans la peinture professionnelle, hein. Alors,
oui, mais toute son énergie un peu dans la peinture.
Oui, voilà, ou disons qu'il sélectionne ses matières à l'école. Hein. Quand ça lui plaît, quand le courant passe avec le prof, il peut être très brillant, mais dans la plupart des matières, vu que le courant passe pas et que ce qu'on lui apprend ne l'intéresse pas, bah, il fait la forte tête, il est collé, etc. Donc c'est une scolarité assez chaotique dans l'ensemble.
Et ce qui est fou, c'est qu'il ne va pas faire carrière dans la peinture à cause de son père.
Oui, alors son père, évidemment, quand Paul dit qu'il veut être peintre, vivre de son pinceau, etc., bon, il freine ses ardeurs, il le pousse à faire des études, à aller dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu une école de commerce. Bon, c'est, évidemment, ça se passe pas très bien parce que lui n'a pas envie. Et lui, ce qu'il a envie, c'est des choses pratiques. Et donc, il veut rentrer dans l'entreprise de son père voilà, 17-18 ans, dès l'adolescence. Donc, alors, dans un premier temps, il suit un peu des cours en parallèle, mais bon, on sent bien que ça ne va pas donner grand-chose parce que l'école, ce n'est pas son truc. C'est un praticien, il a besoin de faire des choses avec ses mains, de vivre du concret. Donc assez vite, il arrête ses études.
Il commence un peu comme livreur de vin, donc en continuant au début ses études, tu l'as dit, pour son père.
Voilà, donc c'est une entreprise de négoce. Hein. Ricard, au début, ne fabrique pas d'alcool, ils font juste la revendre. Et donc, il va démarcher des bistrots, des restaurants dans Marseille. Et il va vraiment apprendre son futur métier, en tout cas apprendre sa clientèle, connaître sa clientèle future. Il aime cette ambiance, c'est quelqu'un qui a du bagou, qui est bavard, qui est dynamique. Donc la vente, c'est quelque chose qui lui est assez naturel. Et puis, il aime l'ambiance des bistrots où on se retrouve, où on échange des potins, des blagues grivoises, etc. Il est vraiment dans son élément, dans cet univers-là, et il a envie de travailler dans ce domaine-là.
Donc il est attiré par cette atmosphère, et surtout par l'atmosphère de l'apéro, et il découvre une boisson qui est alors interdite à la vente, c'est le pastis.
Oui, alors on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais tout le début du XXe siècle, et même on le verra un peu après la Seconde Guerre mondiale, il y a des interdictions assez lourdes sur l'alcool, parce que l'alcoolisme faisait des ravages, et c'était un gros problème de santé publique. Hein. Aux États-Unis, il y a eu la prohibition.
Oui, c'est la prohibition.
Voilà, aux États-Unis, c'était encore plus radical. Pendant plus de 10 ans, l'alcool a tout simplement été interdit. Alors, il y avait après Al Capone qui vendait l'alcool de contrebande, etc. Mais en France, il y avait aussi des lois hein, qui visaient notamment l'absinthe, hein, parce que l'absinthe, c'est un alcool très fort et souvent fait avec des alcools de mauvaise qualité et qui était voilà, assez catastrophique pour la santé. Hein. D'ailleurs, Pernod, hein, qui est une entreprise franc-comtoise, au début faisait de l'absinthe et du fait de ces interdictions, s'est diversifié, entre autres, vers le pastis.
Oui, donc à l'époque, l'alcool était complètement interdit et tout ce qui était absinthe et dérivé était interdit.
Oui, alors interdit au-delà d'un certain degré d'alcool. Donc en gros, on pouvait pas le pastis aujourd'hui, c'est 40 degrés à peu près. On pouvait pas faire au-delà de 15-20 degrés. Donc c'était des sortes de pastis, on va pas dire soft parce qu'il y avait quand même de l'alcool, mais enfin des pastis un peu bridés, disons. Et donc pour répondre à ta question que tu posais au début, hein, c'est le pastis préexistait à Ricard. C'est une boisson du sud qui veut dire le mélange d'ailleurs en occitan. Hein. C'est le pastis, ça veut dire le mélange, parce qu'on mélangeait plein d'herbes, plein de plantes, notamment de l'anis. Et donc, Paul Ricard connaît cette boisson qui est vraiment au cœur de sa région. Et il se dit, bah, moi, ce que je vais faire, c'est un pastis, mais meilleur que les autres. Et c'est vraiment sur cette boisson-là qu'il va miser.
Donc, on est en pleine interdiction. Lui, il décide quand même de se lancer dans la création un peu du meilleur pastis.
Voilà, donc il a une création qui est un peu bridée parce qu'il a des limites d'alcool qu'il doit respecter. Mais voilà, il a un peu un coup de foudre pour le pastis, pour cette boisson un peu locale que les gens font dans les petites fermes. Chacun se fait un peu son pastis dans sa grange avec des recettes différentes.
Les barmans le vendent un peu sous le manteau.
Voilà, alors des fois les barmans marseillais vendent du pastis plus fort qu'il n'est autorisé sous le manteau. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, il se dit, c'est cette boisson-là qui a un vrai créneau commercial. Parce qu'il faut voir que Paul Ricard, même très jeune, il a déjà côtoyé beaucoup les patrons de bar. Il leur a vendu beaucoup de produits pour son père. Donc il connaît déjà la clientèle. Il connaît le produit, il connaît la clientèle. Et donc il va essayer de faire lui-même son propre pastis. Donc il est avec son frère, ils installent une sorte de petit laboratoire dans le grenier de la maison. Tout ça est très artisanal. Et donc ils essaient tout un tas de mélanges divers et variés.
Mais il n'a plus le temps pour les études là.
Oui, alors là, on va dire qu'il est encore inscrit à l'école pour que son père dise rien. Mais tout le monde a déjà compris que les études c'était fini, qu'il est vraiment dans la vie active. Mais il bricole, alors il manque mettre le feu à la maison parce qu'il voilà, il travaille avec des alcools, ça explose, il manque tout faire péter. Enfin bon, voilà. Mais petit à petit quand même, il améliore sa recette. Alors il tente des premiers breuvages auprès des clients, donc des patrons de bar, alors qu'ils ne marchent pas. Il en fait un qu'il appelle un Canto Agosto, qui est totalement oublié aujourd'hui.
Mais qui n'a pas marché, voilà,
que personne ne boit. Il essaie un Marc, donc une boisson qu'il essaie de faire un peu plus fort, qu'il appelle Cantagas, échec total aussi. Mais c'est des échecs desquels il apprend, parce que ces boissons, il va essayer de les placer auprès des patrons de bistrot, et il voit leur réaction, il discute avec eux, pourquoi t'as pas aimé celui-là, qu'est-ce que tu penses que je devrais améliorer, etc.
Il affine un peu son futur produit.
Voilà, il affine totalement son futur produit, et le déclic pour lui, c'est 1932, puisque là, les interdictions sur la composition du pastis et sur son degré d'alcool sont levées.
Coup de chance.
Voilà, donc il se dit, il faut que je fonce, parce que jusque-là, le produit qu'il essayait de créer était limité par tout un tas de restrictions, et là, ces restrictions sont levées, il se dit, bon, là, vraiment, il faut que je fonce et que je trouve le pastis de mes rêves, et donc il redouble d'efforts dans son petit laboratoire familial, et c'est là qu'il va créer son pastis, qu'il appelle Ricard, hein, il va pas chercher le nom très loin.
C'est son nom.
Et là, pour le coup, c'est un succès immédiat et foudroyant.
En parallèle, à 21 ans, il s'était inscrit aux Beaux-Arts, donc il avait un peu continué son apprentissage de l'imagerie, et en parallèle, c'est l'imagerie aussi de Ricard qu'il va fonder au tout début, qui va contribuer aussi au succès.
Voilà, donc le succès de Ricard, il y a deux choses. Il y a le produit qui résulte en fait d'expériences quand même nombreuses, et il y a toute la communication autour de Ricard. Et en tout cas au début, la communication, les affiches publicitaires, les logos, c'est Paul Ricard lui-même qui s'en charge, parce qu'il a vraiment ce talent, ce don de l'image, du dessin. Et donc il va tout de suite comprendre que un très bon argument commercial, c'est d'associer son produit au sud, à la mer, un peu à l'image, un peu chantier. contente.
C'est l'image
cigares,
qu'on a
etc.
du pastis un peu maintenant, enfin de Ricard et tout, alors qu'à l'époque c'était pas obligatoirement ça, quoi.
Bien sûr, ça on le doit entièrement à Paul Ricard. Je veux dire, Pernod, c'est des franc-comtois. Hein.
Donc, c'était à Pontarlier.
Donc non, l'image du, alors le pastis effectivement est une boisson originaire du Sud, mais le côté vraiment l'association presque spontanée qu'on fait du pastis avec la pétanque, la Méditerranée, l'accent du Sud, etc. Ça, c'est vraiment Paul Ricard, et ça tombe pas du ciel. C'est vraiment une stratégie marketing. Dès le début, il comprend qu'il faut jouer là-dessus. Donc, c'est le logo jaune et bleu, donc le soleil et la mer, la Méditerranée. Et donc, tout de suite, il va jouer sur des slogans un petit peu accrocheurs. Le vrai pastis de Marseille. Il arrive à Paris, il met des slogans. Alors, parisien, t'y prends goût à notre pastis, etc. Donc, il comprend tout de suite ça et il va jouer à fond ce sillon-là. Et ça va extrêmement bien marcher. Ça marchera un peu moins bien à l'étranger parce que les gens n'auront pas cette référence. Mais en France, ça marchera très bien.
Au début, c'est un petit poussé. Face aux autres mastodontes qu'il y a, mais il va quand même réussir à s'implanter.
Oui, alors
j'ai compris l'accent. À s'implanter.
Oui, bah, ça déteint sur nous, tu vois.
Oui, c'est ça.
Non, c'est sûr que par rapport à Pernod et Casanis, qui sont un peu les deux grosses maisons de l'époque, Ricard, c'est un tout petit poussé, comme tu l'as dit. L'entreprise de négoce de son père, il y a quelques salariés, mais c'est une petite structure. Et au début, il commence à fabriquer son Ricard de manière totalement artisanale. Alors, assez vite, ça va se développer. Il y aura des dizaines, puis des centaines de salariés. Mais oui, en effet, au début, c'est totalement un petit poussé. Mais la qualité du produit et la stratégie commerciale font qu'il arrive à se faire une place. Hein, et, alors, Pernod essaiera de contre-attaquer avec le 51 à la fin des années 30, mais alors, le 51, c'est aussi un grand succès, tout le monde en a entendu parler, mais Ricard va vraiment réussir à se faire une place au milieu des grandes entreprises établies.
Une des autres raisons du succès, c'est que, contrairement à ses concurrents, c'est plutôt bon marché, le Ricard.
Oui, alors, le Ricard qu'il propose, il se dilue dans plus d'eau que celui des concurrents, pour un prix identique, grosso modo identique.
Donc les barman, ils sont malins.
Voilà, donc du coup, pour le barman, pour le consommateur final, effectivement, pour un verre au final qu'on boit, bah, ça coûte beaucoup moins cher. Et il va avoir toute une stratégie d'éducation du client. Parce qu'au début, le client ne sait pas forcément que le pastis, il faut soit le diluer dans l'eau, soit dans combien d'eau il faut le diluer. Et donc, il va inonder les bars de ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies, donc à la fois de broc, d'eau, pour dire bah, telle carafe, ça fait X verres de Ricard. Il va donner des verres avec des petits traits pour montrer où il faut mettre, combien il faut mettre de Ricard, et combien d'eau, etc. Ouais. Donc, il y a vraiment toute une stratégie de communication et d'éducation du client, puisqu'aujourd'hui, ça nous paraît évident. On prend un Ricard, on met de l'eau dedans, on voit à peu près les doses, mais à l'époque, la plupart des Français n'ont jamais vu de Ricard. Donc, il faut éduquer le client, il faut lui faire connaître le produit. Et pour ça, il est extrêmement bon. Il a un vrai sens commercial, un vrai sens marketing.
Ça me fait penser, les goodies, c'est un peu comme Coca-Cola qu'on a vu dans un autre épisode.
Oui, c'est pareil. Coca-Cola avait inondé ses clients potentiels. Donc, à l'époque, aux États-Unis, on appelait ça des fontaines à soda, c'est-à-dire des sortes de salons de thé, de tout un tas de petits gadgets, de décapsuleurs, de plateaux pour les serveuses, d'affiches à coller au mur, etc. Et Ricard va faire exactement pareil. Va créer tout un tas de petits bibelots pour populariser sa marque. Après, il y aura le Tour de France avec la caravane qui jettera des bibelots au public, etc. Mais il y a vraiment ce filon-là dès le début de se faire connaître et se faire connaître au début avant tout des patrons de bistrot. Parce que ses principaux clients, au début, c'est les patrons de bistrot. Donc, il faut qu'eux identifient la marque.
Donc, tu l'as dit, c'est un succès fulgurant. Et donc, c'est une aisance financière rapidement pour Paul Ricard.
Oui, alors ça devient très vite ce qu'on appellerait aujourd'hui une grosse PME ou une ETI. Donc, alors Paul Ricard, ça n'a jamais été quelqu'un de très bling-bling. Il n'a jamais attaché beaucoup d'importance à la richesse extérieure. Mais c'est sûr que ça devient assez vite un industriel assez prospère sur Marseille.
Il se marie en 1937.
Voilà, il se marie juste avant la guerre. Alors, un moment un peu tragique, puisque c'est le décès de son père et de son frère, hein, qui était son associé à peu d'années d'écart. Et puis après, bah, bien sûr, il y a la guerre qui va arrêter l'entreprise.
Ça, c'est un coup de frein, ça.
C'est un coup de frein. Alors, lui, il est mobilisé dans un premier temps, mais au service des postes, donc il est relativement à l'arrière. Et ensuite, le régime de Vichy va remettre des interdictions sur l'alcool très drastiques. Donc, le pastis, en gros, ne peut plus vraiment être produit. Je crois que la limite est 10 degrés, donc bon, on ne peut plus vraiment faire du pastis. Il essaie de se reconvertir dans le jus de fruits, jus d'orange, bon, pour sauver un peu l'entreprise. Il se reconvertit dans l'agriculture en Camargue, il achète des domaines.
Ah oui, il a des rizières.
Il avait acheté des rizières, des exploitations agricoles en Camargue, notamment pour avoir de quoi manger aussi, pour nourrir ses salariés. Il va faire un peu de résistance, ce sera pas forcément un grand résistant, mais il aura des faux papiers, il va alimenter des réseaux de réfractaires du STO, alimenter en carburant ou en nourriture, des réseaux de résistance, des gens qui se cachent. Donc il passe la guerre à la fois en protégeant son entreprise et ses salariés, c'est un patron qui a une fibre un peu sociale, et en étant alors opposé à l'occupant, mais sans jamais devenir non plus il s'est jamais battu la mitraillette au poing, je dirais.
D'ailleurs, là, ça me fait penser que un des succès de l'entreprise Ricard avant la guerre et après la guerre, c'est aussi sa technique de management avec ses salariés. Là, tu en as un peu parlé. Là, il a voulu les protéger pendant la guerre, mais c'est tout le long de la vie de la société qu'il les a protégés un peu, ses salariés.
Oui, c'est un patron qui a une fibre, disons une fibre sociale assez importante. Alors, par certains côtés, il est très réac, très de droite, très gueulard contre l'État. Et de l'autre côté, il peut être très, très social et très, entre guillemets, de gauche. Et une des innovations qu'il apporte, c'est les actions gratuites, qui aujourd'hui sont pratiquées par beaucoup d'entreprises. Mais on a l'exemple d'une des personnes de son quartier qui était rentrée comme femme de ménage, qui est partie à la retraite multimillionnaire parce qu'en fait, elle avait eu un peu d'actions gratuites tout au long de sa carrière. Et certains salariés, même en bas de l'échelle, pouvaient du coup bénéficier d'avantages financiers en fait assez considérables.
Il fallait garder les actions.
Il faut garder les actions, le temps qu'elles se valorisent. Mais voilà, pour ceux qui ont cru à l'entreprise, il y a eu aussi de belles réussites parmi les salariés.
Donc le rebond d'après-guerre, il est un peu difficile parce que l'interdiction liée aux alcools, elle reste, elle.
Oui, alors aux alcools, ça dépend lesquels, parce qu'en fait, le whisky est autorisé. Le whisky, c'est la boisson des Américains, des Anglais, des vainqueurs. Bon, il y a un peu
ils ont protégé la France, ils nous ont libérés.
Voilà, donc le whisky est autorisé, mais le pastis, donc l'ensemble des pastis hein, dans le Ricard, a toujours des interdictions très fortes, notamment sur les degrés d'alcool. Et alors, Ricard va vendre son pastis un peu sous le manteau, parce qu'il y a évidemment une contradiction à brider le pastis, mais pas le whisky. Et on va dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans le Sud, sont bien contents de contourner un peu cette interdiction. Et lui va jusqu'à dire au patron de bistrot, si vous prenez une amende, je vous la paye. Donc voilà, il y a un peu le côté, on défie le pouvoir et cette consigne qui est un petit peu contradictoire.
En parallèle, il crée la Nisette, qui est moins d'alcool et qui permet de continuer à produire.
Il crée d'autres produits pour essayer de contourner, mais son produit phare, c'est toujours son pastis, et qui va pouvoir vendre vraiment en plus grande quantité à partir de 51, puisque cette interdiction est levée. Les cloches dans le quartier de Marseille de Sainte-Marthe se mettent à sonner comme si c'était la fin, une victoire militaire, une libération. Et donc là, ça va être ce qu'on appelle les 30 glorieuses, la consommation de masse, le tourisme de masse. Donc,
forte croissance là.
Explosion, parce que tous les Français veulent aller au bord de la mer, passer des vacances, et quand ils rentrent chez eux, ils boivent un Ricard et ça leur rappelle le chant des cigales. Donc c'est une période des années 60-70 de très forte croissance de l'entreprise.
Et t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais là ça va être la grande époque du Tour de France, donc de la communication encore plus efficace pour Paul Ricard.
Oui, alors il continue sa communication un petit peu... on va dire un petit peu décalé, un petit peu rigolote. Alors l'exemple typique, c'est ce qu'on appelle la caravane de la soif. Donc en 56, pendant la crise de Suède, il y avait la crainte d'une pénurie de carburant et donc les voitures ne pourraient plus rouler. Alors lui, il dit, tant pis, je vais livrer mon Ricard à d'autres chameaux. Et donc il trouve des chameaux je ne sais où. Et puis dans les rues de Paris, il fait livrer les bistrots en Ricard à d'autres chameaux. Et donc tous les journalistes photographient les chameaux Ricard qui viennent livrer les bistrots parisiens. Donc il a toujours un peu ce don pour trouver de la communication, jamais agressive ou provocante, mais toujours un petit peu rigolote, toujours un petit peu décalée, toujours une petite pointe d'humour, et il joue là-dessus. C'est un peu aussi l'esprit du Sud, l'esprit de Marseille, c'est un peu l'image qu'on a de gens de Marseille un peu gouailleurs. Il joue à fond là-dessus, et vu qu'il a vraiment cette fibre artistique, il s'entoure assez peu de gens pour faire la communication, il le fait vraiment lui-même, parce qu'il a ça en lui, et il perçoit les attentes de la clientèle.
Et d'ailleurs, Ricard continue à faire ça. C'est resté dans l'ADN de la marque.
Oui, c'est resté dans l'ADN de la marque. Même si c'est plus Paul Ricard qui le fait, il y a toujours cette communication très, très liée au Sud, très liée un peu aux clichés. On laboure un petit peu les clichés, mais c'est de bonne guerre.
Lui, il se tourne petit à petit vers ses passions, notamment la mer.
Oui, alors il va prendre sa retraite progressivement et laisser la main à ses fils. Il a une passion pour la mer, donc il va créer un institut on va dire de recherche maritime, de défense de la mer, de recherche maritime. Il va acheter aussi quelques îles au large de Marseille, où il a demandé même à se faire enterrer. Certaines sont des... il n'y a aucune construction pour préserver l'environnement. Sur d'autres, il lance des projets touristiques. Une autre passion, c'est la conduite automobile, puisqu'il a financé le circuit du Castellet dans le sud.
Et le circuit Paul Ricard.
Voilà, le circuit Paul Ricard, oui, bien sûr. Et il va faire un petit peu de politique aussi. Il va être maire d'une petite ville, mais il râlait tellement contre l'administration qu'il a vite arrêté. C'est un peu une grande gueule quand même.
Oui, c'est tellement une grande gueule que même quand il n'est plus aux affaires, puisqu'il a quitté Ricard en 68, il continue quand même à regarder la société de près.
Oui, alors il continue à regarder ce qui se fait parce qu'il a encore bon pied, bon oeil. Et il y a un peu des frictions avec son fils qui a repris la direction parce que son fils est dans une stratégie de diversification qui, lui, ne lui plaît pas trop. Donc, et vu qu'il a un bon tempérament, quand ça ne lui plaît pas, il le dit, y compris à ses enfants. Donc voilà, les relations dans la famille Ricard, à ce moment-là, ne sont pas forcément au beau fixe, mais Ricard se développe et devient une grande entreprise. Et jusqu'à, en 74, la fusion avec Pernod Ricard, puisque les deux entreprises étaient vraiment sur des produits similaires, et elles se sont dit, bon, on se fait concurrence à longueur de journée, essayons de nous allier.
Voilà, autant devenir les plus forts.
Autant devenir les plus forts en alliant nos forces. Et donc voilà, ça devient le groupe Pernod Ricard, qui est encore aujourd'hui un des plus gros groupes de vins et spiritueux au monde.
Paul Ricard décède en 97, à 88 ans.
Voilà, et l'entreprise est toujours dirigée par ses descendants, donc c'est toujours une entreprise familiale avec l'esprit de Paul Ricard qui est toujours présente. Comme tu l'as dit, ça se retrouve toujours dans la communication, très orientée sur le sud, sur Marseille, sur un peu tout ce que ça peut nous évoquer. Voilà, quand on boit un Ricard, on se sent toujours un petit peu en vacances au bord de la mer.
Paul Ricard nous laisse donc une entreprise qui, presque 30 ans après sa mort, rayonne encore et rime plus que jamais avec le chant des cigales. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée de ton nouveau livre qui vient de sortir. C'est le tome 2 d'Entrepreneurs de légendes français. C'est aux éditions Hendrik B. On peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Il ne faut pas aller se priver. Il y a de tonnes de superbes histoires dedans. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager. Ça nous fait plaisir. Continuez à le faire. Vous pouvez évidemment réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à très vite.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.